Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Ruth. Et nous allons encore une fois lire ces versets 6 et 7 du chapitre 1er et les versets 19 à 21. Nous ferons ensuite une lecture dans le Nouveau Testament. Donc Ruth, chapitre 1er, versets 6 et 7, et 19 à 21. Puis Naomi se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 19. Naomi et Ruth firent ensemble voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient cela à Naomi. Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendue amère à l'extrême. Comblée, j'étais partie, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée ?» Dans 1 Jean, donc premier épître de Jean, au chapitre 1er, premier épître de Jean, chapitre 1er, les versets 5 à 10, 1 Jean 1, 5 à 10, Jean 1, 5 à 10, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie loin de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Nous sommes engagés dans cette manœuvre stratégique, ainsi l'avons-nous appelé, du réveil, ce processus du réveil personnel. Et nous l'examinons à la lumière de cette histoire de Naomi, dont nous avons vu qu'elle commence par reconnaître son état. Elle ne cherche pas de faux semblants. Nous avons souligné que notre plus grand ennemi, c'est l'orgueil. Le plus grand obstacle au réveil personnel est lié à notre orgueil. Nous préférons la gloire des hommes à celle de Dieu. Nous l'avons vu dans ce petit livre tellement riche du prophète Osée. Nous avons vu comment Israël avait de la peine, ne voulait pas reconnaître son état. Nous avions terminé sur ces quelques images d'Osée 7 à 10, n'est-ce pas ? La manière dont Éphraïm se confond avec les peuples. Éphraïm est devenu un gâteau qui n'a pas été retourné, des étrangers dévorent sa force, et il ne le reconnaît pas. La vieillesse s'empare de lui, où sa chevelure est toute tachetée de gris ou de blanc, il ne le reconnaît pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui, ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu, et malgré tout cela, ils ne le cherchent pas. Dans le chapitre 5, toujours d'Osée, au verset 15, l'Éternel dira « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. » Alors, dans la détresse, ils auront recours à moi, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Un autre passage aussi qui est très très suggestif, toujours dans Osée, au chapitre 12, Osée chapitre 12, et au verset 8. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Le texte original dit encore plus exactement, mais c'est parce que ça pourrait être un peu difficile à comprendre, mais littéralement, Éphraïm est un Canaan. Canaan, c'est-à-dire que non seulement Dieu parle d'Israël, nous l'avons vu avant-hier matin, en utilisant pour lui son ancien nom, Jacob, vous vous souvenez, on avait dit qu'il y avait là un retour en arrière, mais Dieu finit même par aller encore plus loin. Et parle même d'Israël en l'assimilant aux peuplades païennes qui autrefois occupaient cette terre avant, n'est-ce pas, que le peuple d'Israël s'installe, c'est-à-dire les Cananéens. Et c'est à raison, ou avec une raison bien précise, que Osée interpelle Israël de cette manière, parce que les Cananéens étaient proverbiaux dans le domaine du trafic. Ils étaient des marchands, pensez aux Phéniciens, n'est-ce pas ? Phéniciens, Cananéens, c'était, si vous voulez, le même tronc. Ils étaient très très réputés dans ce domaine du commerce, mais ils étaient aussi réputés à cause de cela dans le domaine de la filouterie. Ils étaient trompeurs, ils aimaient tricher. Au point d'ailleurs que certains commentateurs ont traduit le verset 8 de cette manière, Éphraïm est un filou. Et un filou. Toujours en faisant allusion précisément au caractère de ces commerçants cananéens et phéniciens. Éphraïm est un filou qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Une autre version dira, et c'est très juste, il aime à extorquer. Alors ça, c'est le constat. Le problème, c'est lorsque les prophètes de la part de l'Éternel reprennent Israël, redevenu en quelque sorte cananéen, quelle est la mentalité d'Éphraïm ? Verset 9, et Éphraïm dit, voilà ce qu'il répond aux prophètes qui le reprennent, « À la vérité, je me suis enrichi, c'est vrai. C'est vrai, j'ai acquis de la fortune. Mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime, aucune faute, rien qui soit un péché. » Le problème, c'est, nous l'avons vu avant-hier, Israël ne veut pas reconnaître son péché. Quand les prophètes le reprennent, ils discutent. Ils discutent. Il reconnaît qu'il fait du commerce, etc., mais pas question de reconnaître que c'est un trafic, qu'il y a du vol, qu'il y a du mensonge, qu'il y a de la filouterie. Et j'aimerais que nous enfoncions le clou ce matin. Nous l'avons dit avant-hier, l'ennemi fera absolument tout pour bloquer dans nos vies le processus du réveil individuel. Chaque fois que, d'une manière plus particulière, nous sommes concernés personnellement par ce processus. Et bien entendu, s'il peut déjà nous bloquer d'emblée au niveau de cette première étape et s'arranger pour que nous ne reconnaissions pas nos fautes, ou pour que nous faisions semblant, pour qu'il y ait des faux semblants, s'il peut en nous atténuer la portée de ce verbe, alors il a gagné. Alors nous ne pourrons pas aller vers la deuxième étape. Et c'est pour cela que, d'une manière toute particulière, j'aimerais que nous creusions la question, parce que c'est certainement un des problèmes fondamentaux dans notre vie. Et c'est là que la première épître de Jean nous donne un enseignement très très pratique, mais dans un langage de type plus doctrinal, si vous voulez, sur cette question de notre attitude vis-à-vis du péché. C'est pour cela que nous avons lu ces versets 5 à 10 de 1 Jean chapitre 1er. Quelle est la stratégie des ténèbres? Il y a tout d'abord dans le verset 5 une nouvelle. Et le vieux serviteur, le vieil apôtre quasi centenaire, a l'air d'emboucher la trompette, n'est-ce pas? Ah, j'ai une nouvelle, nous avons une nouvelle extraordinaire pour vous. La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, n'est-ce pas? Il y a une certaine amplitude dans la manière dont l'apôtre Jean s'exprime. Et nous pouvons le comprendre. Nous pouvons le comprendre parce que là aussi, il y a contraste incroyable entre la divinité, ou la déité, devrions-nous même dire, n'est-ce pas? Dieu lui-même et toutes les divinités païennes. On ne pouvait jamais dire cela des divinités païennes. C'était un message qui enthousiasmait, bouleversait le cœur de l'apôtre Jean, qui avait cheminé quand même des dizaines et des dizaines d'années avec son Dieu, qui s'était penché sur le sein de Jésus, n'est-ce pas? La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Pas la moindre zone d'ombre chez lui. Paul dira dans 1 Timothée 6, 16, il habite une lumière inaccessible. Jacques dira, Jacques 1, 17, il est le père des lumières. Et il ajoutera, il n'y a chez lui ni changement, ni ombre de variation. Le jeune prophète de Dieu, futur grand administrateur qui est Daniel, sur la vie duquel nous nous sommes longuement penchés il y a 2 ans, dira Daniel 2, 22, il révèle ce Dieu-là, ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Et puis dans le psaume 104, au verset 2, le psalmiste dira, et c'est là paradoxal, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Nous allons parler de manteau tout à l'heure. Ce n'est pas de ce manteau-là qu'il s'agit. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Et puis nous avons toute la conclusion de la Bible dans l'Apocalypse, au chapitre 21, la cité céleste, qui est le reflet parfait de la personne de Dieu et qui laisse entendre que Dieu est transparent. Dieu est parfaitement limpide. Il n'y a pas de contradiction en lui. Il n'y a pas la moindre complicité, collusion avec le péché. Rien n'échappe à cette lumière parfaite. Et quand nous péchons, silencieusement, oh, la lumière est silencieuse et parlante à la fois. Silencieusement, il montre le péché. Il montre ce qui a coûté la vie à son fils Jésus-Christ. Et c'est là que les problèmes commencent dans notre vie de disciples de Jésus-Christ. Verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Chapitre 2, verset 4, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Verset 9, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Vous voyez cette insistance. Cette manière dont le vieux pédagogue qui a connu et qui connaît l'intimité du Père en Jésus-Christ veut enfoncer le clou. Soulignant le problème de la contradiction entre le langage et l'attitude, l'état intérieur. Cette manière dont nous pouvons avoir un langage très orthodoxe, très pieux, très religieux. Nous avons évoqué le formalisme du royaume du Nord, alors que notre cœur est ténébreux. Cette manière dont nous prétendons si facilement que tout va bien entre Dieu et nous, alors que nos actes et nos attitudes nous séparent de lui. Et l'apôtre Jean est très radical dans ce domaine. Et il dit très simplement, nous trichons. Nous mentons. Nous mentons aux autres. Nous mentons à nous-mêmes et nous faisons de Dieu un menteur. L'apôtre Jean va directement dans ces trois directions. Nous ne sommes pas vrais. Nous ne sommes pas vrais, notamment d'abord avec les autres, et nous les trompons. Nous nous séduisons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous voulons à tout prix nous persuader que nous avions raison. Et pour cela, nous bâtissons de subtiles argumentations, nous cherchons des excuses, des boucs émissaires. Et peu à peu, nous nous laissons séduire par l'argumentation que Satan développe dans notre cœur. Nous déguisons le péché en vertu, en quelque sorte. Et nous finissons par réussir à nous convaincre que nous avons bien fait. Un peintre qui s'appelait Dignimon, dans sa jeunesse, portait, paraît-il, des chemises fleuries. Et il portait des chemises fleuries tout simplement parce qu'il n'en possédait que deux. et que, plutôt que de les laver, il jugeait plus économique de dessiner des fleurs autour des taches. Ça, c'est notre problème. Nous préférons dessiner des fleurs autour des taches. Nous préférons bricoler. Lors de mon récent séjour à Madagascar, j'étais un matin sur un trottoir dans la banlieue de Tananarive, attendant une voiture qui devait m'amener à quelques 400 kilomètres de là. Et j'observais. J'observais la foule. C'est toujours très intéressant, et tout en observant, subitement, je me rends compte qu'il y a pas loin de moi, 2-3 mètres de moi sur le trottoir, un artisan qui était un réparateur de pneus. Et je m'en suis aperçu tout simplement parce que je voyais de plus en plus de personnes qui arrivaient avec des pneus sous le bras, enfin des situations assez particulières, comme on peut en voir très très facilement là-bas à cause de l'état lamentable des routes et puis le manque de pièces de rechange, etc., etc. Et donc je me suis intéressé à ce que faisait ce réparateur de pneus. Et je n'en ai pas cru mes yeux. Au point que je me suis approché, que j'ai regardé de plus près, et bien entendu que pour ne pas le mettre peut-être mal à l'aise, j'ai demandé à l'ami malgache qui m'accompagnait dans ce voyage si je me trompais ou non dans mon appréciation de la situation. Ce réparateur avait un gros pneu de camion qui était presque aussi grand que lui, devant lui, et puis il était là comme un sculpteur avec son burin, n'est-ce pas? Et je le voyais qui a coup de marteau sur cette espèce de burin, tapé dans le pneu. Alors j'ai regardé de plus près, puis subitement j'ai compris. Il était en train d'essayer de discerner où se trouvaient autrefois les dessins, n'est-ce pas, les rainures, généralement souvent zigzag, n'est-ce pas, dans le pneu. Et comme le pneu était très usé, il recreusait des sillons, de manière à ce que le camionneur puisse récupérer son pneu sans avoir besoin d'en avoir acheté un autre, ce qui pose pas mal de problèmes, et surtout pour ne pas se faire arrêter par les gendarmes avec qui il aurait passé un mauvais quart d'heure. Et en voyant ce spectacle, immédiatement cela m'a fait penser à notre cœur, parce que nous sommes comme ça. Nous aimons bricoler pour pouvoir ensuite nous dire, quand le coup de sifflet du gendarme d'en haut intervient dans nos vies, « Mais Seigneur, mais regarde, mon pneu n'est pas usé, ça va très bien, n'est-ce pas ?» Dieu ne se laisse pas avoir. Le bricolage du péché. Et nous avons toutes sortes de processus de rationalisation lorsque le Saint-Esprit nous interpelle. Par exemple, ce n'était probablement pas la meilleure solution, mais je n'avais pas vraiment le choix. Ou encore, je sais que la Bible semble dire que c'est mal, mais je suis certain qu'il y a plusieurs interprétations possibles pour ces passages. Ou encore, j'en ai parlé au pasteur, un ancien de l'église, et il ne m'a pas dit que c'était grave. Entre guillemets, bien entendu, je ne lui ai pas présenté tous les faits, mais il en savait assez pour m'aider. Ou encore, ce qui est fait, je ne peux pas retourner en arrière, il faut donc que je m'accommode de cette situation. Ou encore, si je change maintenant, les gens vont savoir que j'étais dans mon tort, et puisque j'ai vu d'autres chrétiens en faire autant, je n'ai donc rien à me reprocher. Et puis on en arrive à la conclusion, je suis finalement persuadé d'avoir eu raison dans ce que j'ai fait. Vous voyez, nous cherchons des raisons convaincantes pour justifier une attitude, pour supprimer l'angoisse de la culpabilité. On peut le faire en invoquant une valeur supérieure, une raison noble. On peut mentir pour un bien. Qui n'a pas entendu parler et hélas pratiqué les pieux mensonges, les saintes colères? Sont-elles toujours aussi saintes que cela? Nous avons vu d'ailleurs une de ces rationalisations en invoquant une valeur supérieure, Genèse 19, 32, ces deux filles de Lot, n'est-ce pas, qui pratiquent, qui vivent un double inceste pour conserver la race de leur père. Nous aurions pu prendre Jérémie 44, 19, ces femmes de Juda qui justifient leur péché lorsqu'elles disent « Nous offrons de l'encens à la reine du ciel » et elles ajoutent « Avec l'accord de nos maris. » « Seigneur, je suis soumis » ou « Je suis soumise. » Alors il existe comme exemple de rationalisation ce qu'on pourrait appeler le mensonge véridique. Nous pouvons mentir en disant la vérité, mais d'une manière qui suggère quelque chose de faux. Et quand le Saint-Esprit nous reprend, nous soutiendrons, mordicus, que nous avons dit la vérité. Je vais vous donner un exemple. Voilà deux hommes qui travaillaient sur un grand transatlantique. Et un jour, le second, qui ne buvait habituellement pas, s'enivre. Le capitaine haïssait ce second. Et il inscrivit dans le journal de bord, dans le rapport, le soir de cette journée-là, le second s'est enivré aujourd'hui. Et ce capitaine savait que c'était la première fois que cela arrivait à son second, mais il voulait que l'autre soit congédié. Il s'est dit, ils vont lire ça, ils vont dire, c'est pas possible que on s'enivre comme ça quand on est second sur un bateau. S'il l'a fait aujourd'hui, il l'a certainement fait à d'autres moments. Alors le second, avant de ses mauvaises intentions, et il supplie le capitaine de changer. Le messager lui dit, écoutez, je veux bien que vous indiquiez qu'effectivement je me suis enivré, mais au moins indiquez aussi que c'était la première fois, pour atténuer la portée, pour qu'on n'aille pas interpréter et dire là au quartier général de la société que je suis un poivreau, et etc., etc., n'est-ce pas? Et le capitaine de répondre, mais ce que j'ai écrit est la vérité, je ne l'effacerai pas du journal de bord. Il se trouve que, quelques jours plus tard, c'est le second qui est en charge du journal de bord. Alors, à la fin de la journée, il écrit son rapport, et il termine son rapport par cette indication, le capitaine était sobre aujourd'hui. Alors, le capitaine est affolé, il dit au second, mais écoutez, vous allez m'enlever ça tout de suite, vous ne vous rendez pas compte si... au siège de la compagnie, on découvre ces mots, qu'on lit cela, mais ça veut dire que tous les autres jours, je m'enivre si j'étais sobre aujourd'hui. Et le second de répondre avec un sourire, c'est la vérité. Et je ne l'effacerai pas du journal de bord. Tous les deux, apparemment, avaient écrit la vérité. Mais en réalité, ce qui comptait, ce n'était pas ce qu'ils avaient écrit. C'était l'intention qui était derrière. Et qui avait présidé à un certain style dans la rédaction du message. Et mes amis, c'est incroyable, je le dis pour moi. ce que nous sommes fins dans ce domaine. Dieu a fait l'homme droit et l'homme a cherché beaucoup de détours. Et tout au long de notre vie avec Christ, ça, c'est un problème qui nous colle à la peau. Vous savez, je suis très frappé par la teneur de certains communiqués évangéliques dans la presse évangélique. Voyant depuis un certain nombre d'années de près ce qui se passe au plan national et connaissant certaines vérités, je suis parfois bouleversé de voir que certains de nos communiqués officiels évangéliques ne correspondent pas du tout à la réalité des situations. Parce qu'on ne veut pas faire scandale, parce qu'il ne faut surtout pas que certaines vérités soient dites. On utilise le langage diplomatique de nos gouvernements, de nos instances nationales politiques, de nos ministres des Affaires étrangères. Alors nous aurons l'occasion de le voir, bien entendu. Toute vérité n'est pas bonne à dire et crûment. Transparence n'a jamais signifié nudisme, naturisme dans notre communication. Mais néanmoins, nous n'avons pas le droit de déguiser au point que le message qui est annoncé, qui est écrit, ne correspond plus à la vérité. Il n'est pas que question de dire qu'un tel est congédié parce qu'il a fait ceci et ceci et cela dans le détail, parce qu'hélas, dans l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas toujours la grâce qui prévaut. Mais de là à passer de l'autre côté et à donner des raisons qui sont secondaires, annexes, voire inventées, il y a des attitudes qui déplaisent profondément à Dieu dans ce domaine. Deuxième exemple de rationalisation. Laisser croire aux autres qu'on a réglé le problème. Pour, par exemple, échapper aux pressions d'éventuels témoins. C'est un humoriste juif qui a raconté l'histoire d'un conducteur qui vient d'emboutir une voiture en stationnement alors qu'il circulait. Et puis, dans son rétroviseur, il a vu immédiatement que les gens s'approchaient, constataient, regardaient, étonnaient. Alors il s'arrête un petit peu plus loin. Il sort de sa voiture. Il vient vers la voiture en stationnement qu'il vient d'emboutir et dans laquelle il n'y a personne. Il sort, bien sûr, très ostensiblement un carnet de sa poche et un stylo. Et il se met à écrire. Il arrache la feuille, il la glisse sous la lame, n'est-ce pas, l'essuie-glace, et puis il repart vers sa voiture et il démarre. Alors bien entendu, les gens regardaient de loin, et puis une fois que la voiture a démarré, il s'approche pour lire par curiosité le contenu du petit papier. Et on y lisait ceci, « Je viens tout juste d'emboutir votre voiture. Les gens qui ont assisté à l'accident me regardent. Ils pensent que je suis en train d'écrire mon nom et mon adresse. Il n'en est rien. Bonne chance. » On peut aussi rationaliser en évacuant une partie de l'attention, en ne résolvant que partiellement le problème. Mais Là, je ne vous donne pas d'exemple parce que dans un autre cadre, nous y reviendrons. Il y a aussi les phénomènes de projection dans ce domaine. Projection sur les autres, sur la société, sur les circonstances. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, hein. Vous connaissez tous ces phénomènes. La femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné et j'en ai mangé. Puis le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ou encore, c'est la faute de mon enfance, de mon éducation, de mes parents, des circonstances de la vie, de mon caractère. J'ai là sous les yeux toute une série d'explications insolites de police d'assurance automobile. Ce que les automobilistes avaient donné comme explication à la suite d'un accident. Par exemple, une voiture invisible a surgi de nulle part, a heurté ma voiture et a disparu. Ou encore, l'autre automobile est entré en collision avec la mienne sans m'avertir de son intention. Puis quelqu'un d'autre qui veut vraiment atténuer, n'est-ce pas ? Je conduisais ma voiture depuis 40 ans quand je me suis endormi au volant et j'ai fait un accident. Ou encore, comme j'arrivais à l'intersection, une haie a surgi brusquement et a obscurci ma vision. Que faisait-elle donc là ? Une autre qui est un peu plus méchante, mais nous parlons de la bonté des belles-mères avec Naomi, n'est-ce pas, qui est remarquable. Mais enfin là, je me suis éloigné du côté de la route, j'ai jeté un coup d'œil à ma belle-mère et je me suis retrouvé sur le talus. Le piéton ne savait pas quelle direction prendre, alors je l'ai écrasé. Ou encore, le poteau de téléphone approchait rapidement. J'ai essayé de m'enlever de son chemin, mais il m'a frappé le devant. Le gars a été partout sur la route. J'ai dû donner plusieurs coups de volant avant de le frapper. Ou encore, la cause indirecte de cet accident était un petit bonhomme dans une petite voiture avec une grande bouche. Vous voyez, dans notre style d'écriture, nous montrons combien notre cœur est tortueux. Puis il y a toutes les formes de réserve mentale. Ces manières subtiles de devenir jésuite. De ne pas tout dire. Je pense à ce gardien de nuit, garde-barrière, un passage à niveau du temps où ce n'était pas comme maintenant. Et il était en service à un passage à niveau une nuit où se produisit un accident. Et son rôle, notamment la nuit, consistait à se précipiter au devant des véhicules qu'il voyait arriver de loin avec une lampe pour faire signe qu'il fallait freiner pour pouvoir s'arrêter. Et puis, cette nuit-là, un train est entré en collision avec une automobile, causant de graves blessures à ses occupants. Et personne n'avait vu l'accident. Alors, à la cour, ce gardien est appelé à témoigner et le président lui pose toutes sortes de questions, et notamment celle-ci, monsieur le gardien, pouvez-vous nous affirmer si vous avez bien brandi votre lanterne cette nuit-là ? Et le gardien d'affirmer sous serment qu'il avait vraiment brandi sa lanterne. Et la cour le déclare innocent et rejette le blâme sur l'automobiliste. Et il y avait, à la sortie du tribunal, les amis du gardien qui étaient là. Et quand il sort, il leur fait tout de suite signe qu'il a gagné et qu'il est innocenté, il l'entoure, il lui pose des questions, et puis il leur dit, vous savez, je suis soulagé, mais ne le dites à personne. Pendant tout ce temps où le juge me posait question sur question, je n'avais peur que d'une chose. c'est qu'il me demande si ma lanterne était allumée. Bien sûr, il avait brandi sa lanterne. Mais sa lanterne n'était pas allumée. J'ai recueilli dans un mensuel tout à fait profane cette histoire, qui vient tout droit de la Guadeloupe d'ailleurs, d'un homme qui est poursuivi en justice pour avoir commis un vol, et après qu'il a décliné son identité, le juge lui pose la question rituelle: reconnaissez-vous les faits? Monsieur le juge, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai simplement ramassé une corde qui traînait sur le bord de la route, et c'est seulement en arrivant chez moi que je me suis aperçu qu'il y avait un bœuf attaché au bout. Mais cet animal est toujours à la disposition de son propriétaire. Nous pourrions évoquer ce qu'on appelle les euphémismes. Il y a pas mal d'euphémismes, même dans les Écritures. Des manières un peu différentes de dire la chose pour atténuer la force de certaines images, de certaines attitudes, de certains propos. Mais lorsque la Bible utilise des euphémismes, c'est soit pour dénoncer la fausseté de la reconnaissance du péché, soit encore simplement parce que il vaut mieux faire ainsi, c'est peut-être mieux, c'est plus compréhensible. Quand il est dit que dans Daniel 5, Belshazzar eut ses reins qui se relâchèrent, ça veut dire tout simplement qu'il a fait pipi dans sa culotte, n'est-ce pas? Mais on a utilisé une terminologie un petit peu différente. Alors il y a comme cela dans les Écritures des euphémismes, mais alors il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans nos vies. Nous te demandons pardon pour nos faiblesses. Vous connaissez ce langage? Ce ne sont pas des fautes, ce sont des faiblesses. Il nous est très difficile de reconnaître quelque chose comme s'appelant péché. Et c'est vrai que le mot faiblesse atténue, n'est-ce pas? Une faiblesse, on ne s'en sent pas tout à fait responsable. Hein? Il y a quantité d'euphémismes dans le monde. L'avortement, vous le savez, est devenu une IVG. Le mensonge, une contre-vérité. Le vol, un emprunt. L'adultère, une liaison, etc. etc. N'est-ce pas? On est très fort dans un système qui rejette Dieu pour fabriquer un vocabulaire qui évite à la conscience de rester chatouillé par ce drame du péché. C'est une femme qui disait un jour à son pasteur: « Je suis profondément troublée par un problème qui gâche mon témoignage. J'exagère toujours. J'ai tendance à embellir une histoire jusqu'à ce qu'elle ne corresponde plus à la réalité. Alors les gens le savent et mon problème, c'est qu'ils ne me font plus confiance. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Alors le prédicateur de répondre: « Eh bien, on va en parler au Seigneur. Est-ce que vous voulez prier avec moi ?» Alors elle commence à prier: « Oh Dieu, tu sais que j'ai tendance à exagérer. » Alors le pasteur l'interrompt et dit: « Mais écoutez, chère sœur, si simplement vous appeliez ça un mensonge, vous ne croyez pas que ça vous aiderait à vous en débarrasser ?» Et cette dame s'est alors mise à pleurer. Elle a compris qu'il fallait qu'elle appelle le péché par son nom. C'est mensonge, un point, c'est tout, n'est-ce pas? Il y a la méthode du refoulement. Cette manière dont on renvoie l'ascenseur dans le subconscient. Moïse qui, dans la quarantaine, tue l'Égyptien, n'est-ce pas, et le cache dans le sable, comme pour enterrer le souvenir de son crime. Et ça, c'est une source d'usure, de déséquilibre, de problèmes qu'on appelle psychosomatiques. Sans oublier le fait que, mes amis, si ce n'est pas dans ce monde-ci, c'est quand même de toute manière de l'autre côté, que tout sera mis en lumière. Et trop souvent, nous
pensons que ce n'est pas le sang de Jésus-Christ qui efface le péché. Nous pensons que c'est le temps, l'usure du temps. L'usure du temps efface le péché. Mais vous savez que pour Dieu, demain, c'est encore aujourd'hui. Et que ce soit dans 2000, dans 5000, dans 10 000 ans, s'il devait en être ainsi, mais nous savons que ce ne sera pas le cas. Mais quel que soit le temps, le péché que j'ai commis il y a 20 ans est encore aussi clair, aussi net aux yeux de Dieu que si j'étais en train de le commettre maintenant. Il faut le dire. Même si cela peut faire mal dans notre cœur. Il y a le phénomène de compensation. Je paye pour mes fautes en faisant du bien, en donnant plus de temps à Dieu ou en me punissant, comme pour mériter un pardon que je n'ai pas demandé. Et puis alors le verset 10 est intéressant parce qu'il précise que nous faisons Dieu menteur. C'est-à-dire que nous refusons de voir les choses comme Dieu les voit. Et c'est là que nous sommes tentés de terriblement manipuler les Écritures pour servir ou nous servir comme justification à notre péché. J'ai sous les yeux une petite histoire écrite par un auteur juif qui exprime bien l'humour de son propre peuple. Il raconte l'histoire d'un vieux juif qui regardait un étalage de viande dans la vitrine d'une épicerie. Et ce vieux juif étudiait ses options, il se demandait quoi acheter. Et il avait tout à fait le portrait du juif pieux, hein, orthodoxe, avec ses papillotes, etc. Et finalement, après avoir réfléchi attentivement, il pointe du doigt un quartier de viande qui est là et il dit « Monsieur, s'il vous plaît, un quart de livre de bœuf. » Alors le propriétaire, poliment, depuis le comptoir et voyant qu'il était juif, lui dit « Mais vous savez, monsieur, je suis désolé, c'est du jambon. » Et le client de s'irriter et de dire « Mais qui vous a demandé votre avis ?» Vous savez, ça c'est aussi, cela fait partie de nos attitudes. Nous voudrions que les gens nous disent ce que nous avons envie d'entendre. Et c'est cela aussi faire Dieu menteur. C'est essayer d'amener Dieu d'une manière ou d'une autre, notamment dans sa parole, à dire ce que nous avons envie d'entendre. Alors on sort un texte de son contexte, et vous connaissez la suite, pour chercher un prétexte. On verse la parole de Dieu dans le moule de son expérience. On manipule les Écritures. On fait comme cette personne qu'un tireur d'élite de l'armée visite un jour, ou croise un jour sur sa route, alors qu'il vient de traverser toute une petite ville. Et en allant de ci, de là dans la ville, il avait été étonné, ce tireur d'élite, de voir sur les arbres, les murs, les clôtures et les granges un grand nombre de cibles dans lesquelles les trous des balles étaient exactement au cœur de la cible. Alors, il pose des questions et finalement, il tombe sur le remarquable tireur. Il dit, mais vous savez, je n'ai jamais rien vu de semblable, c'est incroyable, mais comment est-ce que vous faites? Et l'homme répond, mais vous savez, c'est facile comme bonjour, je tire d'abord et je dessine les cercles ensuite. C'est facile, n'est-ce pas, dans nos vies, d'ajuster la parole pour qu'elle colle. Il est question dans Jacques 1, 22 de se tromper par de faux raisonnements dans l'approche des Écritures. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans son livre remarquable « La mort dans la cité », le regretté Francis Schaeffer écrit à un moment donné ceci. L'Église de notre temps a besoin d'une réforme, d'un réveil et d'une révolution constructive. Certains voient une opposition entre les mots réforme et réveil. C'est une erreur, car ils sont tous deux en étroit rapport avec le verbe restaurer. Réforme décrit une restauration de la doctrine dans sa pureté, tandis que réveil se réfère à une restauration dans la vie du chrétien. Réforme implique un retour aux enseignements de l'Écriture. Réveil signifie le retour d'une vie à sa juste relation avec le Saint-Esprit. Les plus grands moments de l'histoire de l'Église se sont vérifiés quand les deux restaurations ont marché de pair. L'Église est revenue à la sainte doctrine et, conjointement, les chrétiens ont fait dans leur vie l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut y avoir de vrai réveil sans réforme, et une réforme sans réveil reste incomplète. La combinaison d'une réforme et d'un réveil serait révolutionnaire à notre époque. Révolutionnaire pour nos vies personnelles de chrétiens, révolutionnaire pour l'Église libérale, révolutionnaire encore et d'une manière très constructive pour l'Église évangélique orthodoxe. Et nous avons, dans ce que nous disons ce matin, la démonstration de la justesse de la remarque de Francis Schaeffer. À savoir que lorsque l'Église de Jésus-Christ s'installe dans une attitude rétrograde, elle se met à trafiquer avec les Écritures. Elle en atténue le sens, elle en atténue la portée. Et on écrit à l'heure actuelle une collection incroyable de livres dans nos milieux évangéliques de langue française qui ne sont qu'un bricolage de la vérité des Écritures parce qu'on refuse le message des Écritures qui dérange. Alors, bien entendu, ne considérons pas simplement ce qui se passe autour de nous, mais réfléchissons à nos vies. Le rétrograde est un croyant qui refuse d'être un enfant de lumière. Dans Ésaïe 5, il est dit au verset 20 et 21, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous voyez, c'est là que Naomi aurait pu trafiquer. Elle aurait pu changer l'amertume en douceur. C'est-à-dire entrer à Bethléem en voilant son amertume et en faisant la douce, en faisant comme si elle était restée Naomi. Et je dis, nous n'aurions pas de livre de Ruth, tout simplement. C'est pour cela que nous n'avons pas le droit, je le redis, n'est-ce pas, d'écarter tout ce début de l'histoire de Ruth, aussi sombre soit-il, parce qu'il est absolument fondamental pour nos vies. Une vieille prière dit ceci au Dieu de vérité, « Délivre-nous de la lâcheté qui se dérobe devant les nouvelles vérités. » de la presse qui se satisfait des demi-vérités et de l'arrogance qui pense qu'elle connaît toute la vérité. Et j'aimerais terminer, prendre quelques minutes simplement encore, pour souligner par une petite parabole l'importance de ce que j'ai appelé tout à l'heure la transparence dans nos vies. Vous l'avez vu par ce petit schéma, l'homme peut être comparé à une maison. Sur certaines plages qui ne sont pas abritées, par exemple en Normandie, on le voit encore ici et là, vous pouvez voir comme ça des petites guérites, n'est-ce pas, non seulement pour se changer, mais aussi pour pouvoir se mettre à l'abri, parce que le vent peut être froid, ce sont des plages généralement exposées. Alors imaginez l'homme comparé à une de ces petites maisons, avec son toit qui recouvre ses péchés, qui le sépare de ce Dieu qui est lumière, et puis ces murs de respectabilité qui le cloisonne et qui l'isole de ses voisins. Le processus de la conversion qui conduit à la régénération, à la nouvelle naissance, se traduit par une irruption, en quelque sorte, dirions-nous, du Saint-Esprit qui, entrant dans la maison, fait sauter le toit et les murs. Il y a une inondation de lumière, et c'est ça, n'est-ce pas, la nouvelle naissance? C'est une inondation de lumière qui, d'ailleurs, nous libère. On cesse de porter des masques. Et d'ailleurs, on commence à voir les choses tout à fait différemment, n'est-ce pas? Quand quelqu'un se tourne vraiment vers Jésus-Christ, il le dit très souvent, mais je ne vois plus les situations de la même manière, je ne vois plus les personnes de la même manière, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'être dans un monde nouveau, à cause de cette irruption de lumière. Cela veut dire qu'on accepte d'être vrai. On entre dans de nouvelles relations. Bien sûr, dans une nouvelle relation avec Dieu, et puis dans de nouveaux types de relations au plan horizontal, avec ce qui nous entoure. Le problème, c'est que Satan est meilleur que les meilleurs maçons italiens. Et il s'empresse d'essayer d'enténébrer ce qu'il peut de notre vie, il s'empresse d'essayer de reconstruire des murs, et bien sûr de remettre un toit. Il va tout faire pour briser notre relation nouvelle avec Dieu par une infiltration du péché dans notre vie. Il va essayer de détériorer nos relations horizontales, notre communion avec les frères, et surtout, il va essayer de nous dissuader de revenir à la croix. Il va le faire par tous les moyens que nous avons énumérés. Et il va essayer de nous conduire à laisser croire autour de nous que tout va bien. Et nous allons entrer dans ce processus de la contradiction entre le personnage et la personne. La personne. Chacun d'entre nous est une personne. Ce que généralement on ne sait pas, et je l'ai appris avec beaucoup d'intérêt, c'est que l'étymologie du mot latin persona est très intéressante. À l'origine, d'ailleurs, c'était un mot non pas italien, mais étrusque, ceux qui sont venus dans l'histoire avant les Italiens. Et initialement, ce mot signifiait masque. Le masque dont se couvraient les acteurs dans le théâtre romain. Et par extension, le rôle que ce masque servait à exprimer. Si vous voulez, c'était un équivalent des hypocrites chez les Grecs, puisque l'hypocrite était le comédien du théâtre antique grec, c'était tout à fait un équivalent. Nous sommes des personnes. Nous aimons mettre un masque. Nous aimons ressembler à Jacob. Hein. Toujours été frappé par cette parole de Genèse 27, 22, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, il y a pas mal d'années déjà, le livre de Pierre Daninos, cet humoriste très célèbre, qui s'intitule « Le 36e dessous ». Et dans « Le 36e dessous », Pierre Daninos raconte sa dépression profonde. Ce grand comique, humoriste, a fait une terrible dépression et il a courageusement raconter comment il a vécu cette dépression. Et à un moment donné de son livre, il écrit ceci: « Ce qui m'afflige le plus, c'est la différence, l'abîme entre l'homme tel que les gens se le représentent, l'humoriste, et celui que je suis réellement. J'en souffre surtout lorsqu'à la fin d'une journée comme celle-ci, je me prends par la peau du cou pour sortir. Pour éviter de livrer au monde ma mine sinistre, je mets le masque. J'essaie devant la glace un rictus qui plisse mon faciès cartonné comme si on l'avait plongé dans un bain d'amidon. Avant d'aller dans le beau monde, Je vais éprouver mon masque chez le pharmacien, j'entre la mort dans l'âme avec mon rictus et m'efforce de paraître l'homme le plus gai du monde pour demander du savon à barbe. Alors il y a toute la suite du dialogue avec le pharmacien qui lui dit, bien sûr, vous devez être l'homme le plus heureux du monde. Je suis l'homme le plus heureux du monde, bien entendu. Et puis finalement, à la fin, conclusion, je reviens chez moi, dans la forêt, ôte mon masque, me regarde dans la glace, me demande si les gens me voient vraiment tel quel, m'étend, retourne à ma table. C'est si facile dans nos vies de devenir une propriété privée. Les autres peuvent me voir, mais de l'extérieur. On met même des pancartes. Propriété privée. Défense d'entrée, chien méchant. Et c'est là que nous pouvons utiliser cette petite illustration. Je dirais que ça, ce sont deux rétrogrades. Ce sont deux rétrogrades qui se sont installés dans leur bulle de respectabilité. Ça peut être un couple, ou d'autres membres d'une même famille, ou d'une collectivité, de l'église locale. Ils sont enfermés dans leur bulle. Nous aurions pu mettre des noms. Ils sont tendus. Quand on vit à l'intérieur de ces murs de respectabilité, enfermé dans la bulle de son orgueil, on vit sous tension. On a peur que d'autres réalisent qu'il y a une contradiction entre le personnage et la personne. Le problème aussi, c'est que je n'ai aucune peine à porter ces deux ballons. Ils sont très légers, n'est-ce pas? Ils sont remplis de ce qui est sorti de mes poumons. Ce n'est pas quelque chose qui donne la vie, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, dans la première aux Corinthiens, parlera d'être rempli d'orgueil. Rempli de vide. De ce moi, n'est-ce pas? Et vous remarquez que la relation entre ces deux personnes n'est pas très étroite. Si vous calculez la surface de contact par rapport à la totalité de la surface de chacun de ces deux ballons, c'est minime. Et il suffit de si peu de choses lorsque ces deux personnes entrent en contact l'une avec l'autre pour qu'elles se repoussent mutuellement. Et bien entendu, on va aller jusqu'au bout, hein. On a parlé de sainte colère. Quand on s'installe dans la vie rétrograde, ça joue sur le caractère. Et il faut si peu de choses pour qu'on devienne agressif. Alors quand on devient agressif, hein, on y va? Qui dormait? J'ai dit que ce matin je vous réveillerai. Je vous pose une question maintenant. Où est le problème? Où est le problème? Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Le problème, il est là. Dans les relations entre ces deux personnes, le problème est là. Et vous savez que généralement, dans nos relations les uns avec les autres, nous sommes toujours tentés de dire que le problème est chez l'autre. Le problème est chez moi. Dans un couple, c'est comme ça, n'est-ce pas? Le mari vient vers quelqu'un pour partager les problèmes, il tape sur le dos de sa femme, la femme a tous les torts. Si ma femme était ceci ou cela, notre vie conjugale serait un paradis. Alors vous voyez l'épouse, et l'épouse, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, si mon mari était différent, notre vie de couple serait un paradis. En réalité, une fois que nous aurons l'occasion de le voir, la croix est passée par là, le problème devient en tout cas pas de là. Enfermé dans la bulle de sa respectabilité. Alors on parle aussi de la communion justement des chrétiens masqués. J'ai sous les yeux un texte très intéressant. Que se passe-t-il quand des chrétiens masqués s'assemblent? Ce sont leurs masques qui se rencontrent, eux-mêmes étant bien décidés à rester en sécurité derrière leurs manœuvres protectrices. Notre premier objectif est d'éviter d'être percé à jour, de paraître fréquentable, de négocier à partir d'une position de force. Quand des chrétiens se fréquentent en restant derrière des masques défensifs, eh bien ils éprouvent une communion de masque à masque. C'est comme si des amoureux s'embrassaient à travers une vitre. Après avoir bavardé de derrière nos défenses, nous nous sentons insatisfaits, éloignés, insensibles, superficiels, mais en sécurité. Cependant, le prix de la sécurité est élevé. Établir des relations à partir d'une attitude de défense conduit à une communauté de surface, un ensemble de relations sans profondeur qui ne peut pas plus toucher le moi intime qu'un galet ne peut troubler l'océan. Je termine simplement. Que le Seigneur parle à nos cœurs. Spurgeon disait, ce qu'il nous faut, c'est moins de vernis et plus de vérité. Moins de vernis et plus de vérité. Une reconnaissance qui soit une vraie reconnaissance. Quelqu'un écrit il y a quelques siècles déjà simplement ceci, même nos larmes de repentance ont besoin d'être lavées dans le sang de l'agneau. Même nos larmes de repentance. Reconnaître, mais vraiment reconnaître. Tu dis Seigneur que ça c'est péché, eh bien simplement, je reconnais que c'est péché. Ça c'est ce que Naomi a fait. Nous voulons prier. Seigneur, nous confessons, nous reconnaissons devant toi que tu as fait l'homme droit. Tu nous as fait droit, mais nous avons cherché beaucoup de détours à cause du péché qui est en nous. Nous te bénissons de ce que nous ne soyons plus sous l'autorité de la puissance des ténèbres à laquelle nous avons été arrachés pour être transportés dans le royaume de lumière qui est celui du Fils de ton amour. Nous te bénissons pour ce changement bouleversant, cette certitude inscrite dans nos cœurs sur la base de ta parole que nous sommes maintenant tes enfants. Mais Seigneur, pardon pour toutes les fois où enfants de lumière, nous retournons vers l'obscurité. Où nous jouons un clair-obscur. Pardon pour la manière dont nous trichons si facilement quand tu nous reprends. Aide-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit, à simplement reconnaître, comme Naomi et avec Naomi, notre véritable état. Pour que le sang de Jésus, ton Fils, puisse manifester son efficacité parfaite et que l'huile de ton esprit puisse apporter une vraie guérison, oindre nos plaies, nous permettant ainsi de continuer à grandir de grâce en grâce. Seigneur, merci. Merci pour Naomi, un aiguillon et un encouragement à entrer véritablement dans ce processus et à y revenir chaque fois que cela est nécessité par le problème de notre péché. Béni sois-tu, Seigneur, parce que ta parole, même lorsqu'elle fait mal, est une parole libératrice. Nous t'en bénissons en Jésus-Christ. Amen.